99.1 FM Radio HTR.
Il n'y a qu'à appuyer sur play.
C'est une planète vivante que nous transmettrons aux jeunes générations.
Demandez votre brochure LEG sur transmettre.wwf.fr ou appelez au 01 73 60 40 40.
Midi en temps universel. Oui, c'est ça, midi en temps universel, 13h à Paris. Merci d'écouter RFI.
RFI midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Mathis Limano.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Avec une question à la une, les pays du Golfe vont-ils passer à l'offensive contre l'Iran ?
Ils se sont contentés jusque-là de défendre leur territoire face aux missiles et drones iraniens, mais ils pourraient changer de braquet et passer à l'offensive. Ce matin, l'Arabie Saoudite a menacé de répliquer aux attaques iraniennes contre ses raffineries, des sites énergétiques également visés au Koweït et au Qatar. Il était fermé depuis le début de la guerre, il y a presque 3 semaines, le point de passage de Rafah qui relie la bande de Gaza à l'Égypte a rouvert ce matin.
À suivre aussi un Conseil européen sous haute tension à Bruxelles.
Les 27 chefs d'État et de gouvernement sur le pont pour évoquer la flambée des prix de l'énergie causée par la guerre au Moyen-Orient, mais aussi ses conséquences sur la guerre en Ukraine. Au Venezuela, la présidente par intérim se sépare de son ministre de la Défense à l'occasion d'un remaniement gouvernemental. Il était un proche de l'ex-président Nicolas Maduro. Et puis à 3 jours du second tour des élections municipales en France, le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, accuse Emmanuel Macron d'être intervenu directement dans les tractations de l'entre-deux-tours.
L'inquiétude grandit autour des installations énergétiques dans le golfe arabo-persique.
Oui, après une frappe israélienne, elle a visé hier des infrastructures iraniennes permettant d'exploiter le plus grand champ gazier au monde. Téhéran a répliqué par une série de frappes sur des installations énergétiques des monarchies du golfe. Le Qatar déplore des dommages considérables sur le principal site mondial de production de GNL, le gaz naturel liquéfié. 2 raffineries du Koweït ont également été touchées ce jeudi, tout comme une raffinerie en Arabie Saoudite. Riyad, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, affirme que le pays se réserve le droit de mener des actions militaires si cela s'avère nécessaire. Bonjour Guilhem Deltey.
Bonjour Mathis.
Depuis le début de la guerre, il y a près de 3 semaines, Guilhem, les pays du Golfe sont restés sur une position défensive. Protéger le territoire, c'est la priorité. Mais avec ces frappes, pourrait-il passer à l'offensive contre l'Iran ?
Eh bien, l'attaque d'infrastructures énergétiques est pour les monarchies arabes du Golfe une ligne rouge. Environ un tiers de leur produit intérieur brut provient de l'exploitation des énergies et ce sont leurs intérêts à long terme qui s'en trouveraient menacés. Baisse des revenus, mais aussi probable fuite des investissements étrangers, précisément ce qu'elles veulent éviter depuis le début de cette guerre. En 3 semaines de conflit, l'Iran a ciblé à plusieurs reprises déjà les installations énergétiques de ses voisins arabes. Dès la première semaine de conflit, le site qatarien de Ras Laffan, principal site de production de gaz naturel liquéfié au monde, a été attaqué. Raffineries et sites de production ont également été touchés dans les autres monarchies. L'Iran est désormais perçu dans les capitales arabes du Golfe comme un ennemi. Toutefois, la prudence reste de mise. Matisse, ce jeudi encore, la mise en garde du ministre saoudien des Affaires étrangères fut modérée. L'Arabie saoudite exercera son droit de répondre. Si cela s'avère nécessaire, précise-t-il, entrer activement en guerre entraînerait une nouvelle escalade dans un conflit dont les monarchies n'ont pas voulu et dont elles ne comprennent pas les buts. Toute intervention doit donc permettre pour elles d'avancer vers la fin du conflit et donc conduire à le prolonger en offrant en passage une victoire à Benjamin Netanyahou en combattant aux côtés d'Israël alors qu'il est jugé principal responsable du chaos régional actuel.
Guilhem Delteil.
Et on revient sur cette situation dans une dizaine de minutes avec notre invité. On s'arrêtera notamment sur ce que représentent les différents gisements gaziers, notamment dans cette région du Golfe. On se penchera aussi sur les conséquences mondiales des tirs des dernières heures.
Et ces frappes sur des sites énergétiques couplées au blocage du détroit d'Hormuz font flamber les prix de l'énergie. La référence mondiale, le baril du pétrole de Brent, bondit de plus de 10% ce jeudi. Il dépasse actuellement les 110 dollars avec un pic atteint ce matin à 118 dollars. En parallèle, l'Iran continue de bombarder directement le territoire israélien. 3 explosions entendues tout à l'heure à Tel Aviv après une alerte au missile lancé donc par l'Iran. L'armée israélienne indique que la défense antiaérienne a été activée. Il s'agit là du 6e tir de missile vers le territoire israélien depuis hier soir.
Il avait justement été fermé par l'État hébreu au début de la guerre. Le point de passage de Rafah a rouvert ce matin.
C'est l'unique porte d'entrée et de sortie qui relie Gaza au reste du monde sans passer par Israël. Il se trouve à la frontière avec l'Égypte. Le passage peut se faire dans les deux sens. D'après des médias égyptiens, Rami El-Megari se trouvait lui côté Gaza auprès de Palestiniens souhaitant quitter l'enclave. Reportage.
Kamal Moussa est venu dire au revoir à sa fille. Elle va prendre un bus pour traverser le point de passage de Rafah. Kamal reste à Gaza avec la famille, mais Tara, 17 ans, peut enfin partir pour l'Égypte pour y être soignée.
Ma fille a été blessée pendant la guerre. Mes deux fils ont été tués lors d'un bombardement et elle a été gravement blessée à la moelle épinière et à la main. Ça fait environ 8 mois que nous attendons ce moment. C'est un grand espoir pour moi et pour beaucoup d'autres aussi, je l'espère.
Tara est partie accompagnée de sa sœur. Pour l'instant, le nombre d'évacuations est très restreint. Raed Al-Nems le regrette. Il est le porte-parole du Croissant Rouge.
25 personnes, patients et accompagnateurs, ont été évacués aujourd'hui. Bien sûr, c'est un petit nombre comparé aux longues listes d'attente. Nous espérons que dans les jours à venir, une pression réelle sera exercée sur Israël pour qu'il augmente le nombre de patients et ouvre les points de passage 24 heures sur 24.
Le Croissant Rouge assure que 18 000 malades dans la bande de Gaza attendent en urgence d'être évacués. Rami El-Megari, Rani Younes, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Et les bombardements qui se poursuivent, la défense civile de la bande de Gaza rapporte la mort de 4 personnes dans des frappes aériennes israéliennes au nord de l'enclave. Direction Bruxelles à présent, où les 27 chefs d'État et de gouvernement sont sur le pont pour un sommet européen. On l'évoquait, le principal dossier, eh bien, c'est la crise énergétique causée par la guerre au Moyen-Orient. Un conflit, Pierre Benazet, qui a des conséquences directes sur l'Ukraine et qui préoccupe beaucoup les 27, avec notamment un bras de fer engagé par la Hongrie.
Oui, le Premier ministre hongrois n'en démord pas, il fait même monter les enchères, il décrit désormais l'oléoduc Drujba fermé comme vital pour la Hongrie. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, va jusqu'à estimer que l'échéance électorale des législatives hongroises du 12 avril rend Viktor Orban, je cite, déraisonnable. À son arrivée ce matin, le Premier ministre hongrois n'a donné aucun espoir pour un déblocage rapide du prêt de 90 milliards d'euros décidé lors du sommet européen de décembre.
Nous souhaitons récupérer le pétrole qui est à nous et qui est actuellement bloqué par les Ukrainiens. Je ne soutiendrai aucune décision prise ici qui soit en faveur de l'Ukraine. Les Hongrois ne parviennent toujours pas à récupérer le pétrole qui nous appartient. C'est une question vitale pour la Hongrie.
Pourtant, cette volonté hongroise de voir rouvrir le robinet du pétrole russe pourrait aisément être compensée par du pétrole d'autres fournisseurs, selon le Premier ministre croate Andrei Plenković.
La Croatie dispose de son gazoduc de l'Adriatique, ce qui lui permet d'assurer la sécurité énergétique et l'approvisionnement en pétrole de la Hongrie et de la Slovaquie, même lorsque le gazoduc Drozhba est hors service.
Les homologues européens de Viktor Orban sont furieux de le voir revenir sur l'accord donné en décembre, mais ils relativisent l'urgence car l'Ukraine a obtenu un prêt de 7 milliards d'euros du Fonds monétaire international, ce qui lui donne de quoi voir venir au moins jusqu'en mai, pense-t-il.
À Pierre Benazé en direct de Bruxelles pour Radio France Internationale.
Il est 21h08 à Tokyo, 8h08 à Washington, où la première ministre du Japon se trouve. Elle sera à la Maison-Blanche tout à l'heure.
Sanae Takaishi, reçue par Donald Trump. Jusqu'ici, la première ministre nippone était dans les bonnes grâces du président américain. Mais cette visite risque de prendre une toute autre tournure. En cause, le refus du Japon de sécuriser le détroit d'Ormuz, comme demandé par Donald Trump aux alliés de Washington, alors que l'économie japonaise souffre de la guerre au Moyen-Orient. Nicolas Roca.
Une visite de routine qui s'est transformée en déplacement sous haute tension. Sanae Takaichi devait se rendre à Washington ce jeudi pour renforcer sa relation avec son allié avant le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping fin mars. Cette rencontre, les États-Unis veulent désormais la reporter. Et puis la première ministre arrive à la Maison-Blanche dans un contexte explosif. Comme les autres alliés des États-Unis, elle n'a pas envoyé de navire pour sécuriser le passage de pétroliers dans le détroit d'Ormuz malgré l'insistance de Donald Trump. Tokyo dépend à 90% des importations venues du Golfe pour son pétrole, mais la constitution pacifiste du pays lui interdit l'envoi de troupes dans une zone en guerre. Si la première ministre a précisé qu'elle explorerait les options à sa disposition tout en respectant le cadre légal, toute forme de participation au conflit semble très compliquée. L'attaque israélo-américaine est extrêmement impopulaire au Japon, d'autant que le pays a été contraint de débloquer ses stocks stratégiques de pétrole. Les importations de brut venues d'Alaska devraient d'ailleurs être au menu des discussions, tout comme un accord sur les terres rares, sujet au cœur des tensions entre Tokyo et Pékin, des tensions qui sont désormais reléguées au second plan. Nicolas Rocanara, RFI.
Et les relations sino-américaines, à présent Pékin somme Washington de cesser d'agiter la théorie d'une menace chinoise sur l'île de Taïwan. Devant la presse, le porte-parole des affaires étrangères a vivement critiqué les services de renseignements américains. Un rapport publié par ces mêmes services conclut que la Chine ne prévoit pas d'envahir Taïwan au cours des deux prochaines années, mais confirme la volonté de Pékin de prendre le contrôle de l'île. Les États-Unis doivent abandonner leur mentalité du tout ou rien de la guerre froide, a estimé le porte-parole chinois.
Du changement au sein de l'exécutif au Venezuela.
Un remaniement gouvernemental décidé par la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez. Elle a notamment nommé Gustavo González López au très stratégique ministère de la Défense. Il remplace ainsi le général Vladimir Padrino. Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour.
Il a longuement occupé le poste sous l'ère du président déchu.
Oui, c'est un proche parmi les proches de Nicolas Maduro qui a été poussé vers la sortie. Le désormais ex-ministre de la Défense Vladimir Padrino López occupait le poste depuis 2014, pendant presque tout le mandat de l'ancien président vénézuélien. Plusieurs de ses proches sont écartés du pouvoir par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, sous pression de Washington. Et c'est donc Gustavo González López qui a été nommé au poste de ministre de la Défense. Quelques mois plus tôt, il avait déjà été promu chef de la garde présidentielle et du contre-espionnage. C'était en janvier dernier, après la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis. Auparavant chef des services de renseignement très craint et très actif dans la répression politique, c'est une figure dure du pouvoir. Gustavo González López a d'ailleurs été sanctionné par les États-Unis et l'Union européenne pour violation des droits de l'homme et corruption. Une nomination qui fait déjà réagir des ONG au Venezuela qui se disent préoccupées.
Les précisions de Claudia Bertram. Il est presque 13h12 à Paris. Emmanuel Macron est-il intervenu personnellement dans les élections municipales dans la capitale? L'accusation vient du camp candidat socialiste Emmanuel Grégoire, arrivé en tête au premier tour dimanche dernier. Une accusation lancée hier soir sur BFM TV lors d'un débat très tendu entre les trois candidats en lice pour le second tour. Il a reproché à Emmanuel Macron d'être intervenu afin de favoriser le retrait de la liste de Sarah Knafo, la zémoriste, au profit de Rachida Dati. L'Élysée dément Valérie Gasse et la campagne tourne au pugilat.
C'est sur France Info que le candidat socialiste à la mairie de Paris a lâché ses coups contre Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron est intervenu, c'est beaucoup de vos confrères qui nous l'ont relayé, pour faire en sorte que l'extrême droite se retire au profit de sa candidate.
En ciblant le président de la République, Emmanuel Grégoire a tenté le scud de la dernière chance contre Rachida Dati, qui est de notoriété publique la candidate soutenue par le chef de l'État à Paris et s'est plusieurs fois vantée de son soutien. L'entourage d'Emmanuel Macron a immédiatement répondu pour dénoncer un mensonge indigne et calomnieux, et le chef de l'État lui-même est intervenu à son arrivée à Bruxelles pour le Conseil européen.
Ces propos n'ont aucun sens, ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça à l'emporte-pièce. C'est pas sérieux. Je ne connais pas Madame Knafo à titre personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales. Donc les municipales doivent se tenir dans le cadre le plus respectueux, le plus républicain. Mais tout ça est strictement faux et je crois n'est pas à la hauteur.
Une version confirmée par Sarah Knafo qui a démenti elle aussi dans un message sur X et a accusé le socialiste de paniquer et sombrer dans le complotisme. À 4 jours du scrutin, la tension monte encore d'un cran dans la campagne parisienne, signe de l'enjeu du résultat de dimanche dans la capitale.
Valérie Gasse.
L'actualité en France marquée également par Total Energy qui lance sa première usine de recyclage chimique de déchets plastiques.
Et selon la major pétrolière, il s'agit là d'une technologie révolutionnaire permettant de recycler des déchets plastiques qui ne sont pas recyclables mécaniquement et qui sont actuellement enfouis ou incinérés. Mais les défenseurs de l'environnement dénoncent un processus inefficace et polluant, Stéphanie Schuller.
Au cours du recyclage chimique, les déchets plastiques sont chauffés à haute température, sans oxygène et sous pression, pour les transformer en huile synthétique qui servira à son tour à la fabrication de nouveaux plastiques, d'engrais ou de carburant, explique Total Energy. Mais cette technologie, aussi appelée pyrolyse, comporte des dangers. Elle émet des polluants comme le bisphénol A, est très énergivore et...
C'est 9 fois plus émetteur en gaz à effet de serre que le recyclage mécanique, donc c'est pas du tout une alternative souhaitable aujourd'hui.
Souligne Bénédicte Chiarcala, juriste à Zero Waste France. Comme d'autres ONG, elle estime que les projets de recyclage chimique ne sont rien d'autre que
l'énième tentative de l'industrie pétrolière et de la plasturgie pour imposer la rhétorique qu'on peut continuer à produire des grosses quantités de plastique, ce qui est essentiel en fait pour la viabilité de l'industrie pétrolière.
Or, à l'échelle mondiale, seuls 9% des déchets plastiques sont recyclés. Les scientifiques sont donc formels pour mettre fin de façon efficace à la pollution aux microplastiques que l'on retrouve dans la profondeur des fonds marins jusqu'à dans nos cerveaux. Il n'y a pas d'autre choix que de réduire la production des plastiques et de limiter drastiquement leur utilisation.
Stéphanie Schuller, RFI Midi, continue avec vous, Anne Contner.
Merci Mathis Liman. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un nouveau journal. Et nous, alors, on va parler de sport.
We'll be right back.
Yeah. just smoke of them everlasting.
I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei. Eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto. E quando canto, é assim.
Agora vou divertir. Agora vou começar. Quero ver quem vai sair. Quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar.
Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão.
Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir.
E morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer.
Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir.
Seu moço, tenha cuidado com a sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui.
Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar.
Agora vou terminar, agora vou. Tudo diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, onde se diz o que diz.
Onde se diz o que diz, onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz.
Le mix des cultures.
99.
HDR.
Pour...
Baby, have you said you love me?